Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Napoléon Bonaparte, membre de l'Institut, dans la section de mécanique. Avait-il des compétences scientifiques qui auraient pu justifier une telle élection ? Ce n'est pas clair du tout. Une élection politique. Évacuons pour commencer ce qu'on pourrait peut-être présenter comme un résultat mathématique, le théorème de Napoléon. Prenez un triangle quelconque et pour chacun de ses côtés, dessinez un triangle équilatéral qui a ce côté comme base. Vous obtenez ainsi une espèce d'étoile à trois branches, dont les branches sont des triangles équilatéraux et dont le cœur est le triangle de départ. Considérez les centres de ces trois triangles équilatéraux. Eh bien, ces trois points forment un triangle équilatéral. Voilà l'énoncé du théorème de Napoléon. Vous conviendrez qu'on n'est pas élu académicien pour une amusette de ce genre. Pire, il n'est pas clair du tout que cela soit dû à Napoléon. Les premières mentions de cet énoncé semblent postérieures de 4 ans à la mort de Napoléon. Alors, oublions ça. Bonaparte fut élu le 25 décembre 1797. On votait le jour de Noël en ces temps-là. Nous allons voir que cette élection avait tout de politique et rien, ou presque, de scientifique. Bonaparte, le général Bonaparte, avait 28 ans. Il revient juste de la campagne d'Italie, accueilli comme un héros par le directoire. Sa popularité est immense auprès des Français. L'Institut a eu l'intuition du futur extraordinaire de Bonaparte et de tout ce que pourrait lui apporter son soutien. Une élection politique à n'en pas douter. Le coup d'État de Fructidor, septembre 1797, avait eu une conséquence politique malheureuse. 5 membres de l'Institut avaient été radiés, considérés comme royalistes. Parmi eux, un scientifique, Lazare Carnot. Le 26 septembre, le ministre de l'Intérieur écrit pour signaler que, ouvrez les guillemets, « le directoire exécutif me charge de rappeler à l'Institut National qu'en conséquence des lois du 19 et 22 Fructidor de l'an 5, la place de Carnot dans la première classe de l'Institut est vacante. Le directoire engage l'Institut de s'occuper de son remplacement. » Voilà donc l'une des rares occasions dans l'histoire où le gouvernement radie un membre de l'Institut. Pauvre Carnot, radié en 1797, il sera réélu en 1800, puis radié à nouveau par Louis XVIII à la Restauration. Le célèbre géomètre Monge avait participé à la campagne d'Italie, il avait discuté avec le général, 23 ans plus jeune que lui. Ils étaient devenus amis. C'est probablement en Italie que germe l'idée que Bonaparte se porte candidat. C'est sur la place laissée vacante par Carnot que Bonaparte sera élu. Une précision historique. Les académies royales avaient été dissoutes en 1793, car royales. Mais en 1795, la Convention crée l'Institut national des sciences et des arts, qui regroupe à peu près les membres des anciennes académies. L'Institut est décomposé en 3 classes, dont la classe des sciences, elle-même décomposée en sections. Le mode d'élection est assez précis. Dans un premier temps, la section, dans ce cas la section de mécanique, proposait une liste de candidats. Il y eut 12 candidats. Pour être honnête, Bonaparte était sans aucun doute celui qui avait le dossier scientifique le plus faible. Mais il était célèbre. Dans un deuxième temps, la classe des sciences passait au vote. Mais le scrutin utilisait une méthode assez originale, due à Borda, qui me semble intéressante. Chaque votant attribuait un classement aux 12 candidats. 12 points pour celui qu'il préférait, 11 pour le second, etc. et 1 point pour le dernier. On ramassait les bulletins et on ajoutait les points tout simplement. Le gagnant était celui qui avait le plus de points. Astucieux, non ? Une méthode qui permet d'exprimer son opinion de manière assez fine, finalement. Le vote de la classe des sciences eut lieu le 11 novembre 1797. 41 membres prirent part au vote, mais l'un d'entre eux se trompa et mit deux candidats dans la même position. Son bulletin fut donc annulé. Bonaparte obtint 411 points, ce qui donne une moyenne de 10,275 points, ce qui est impressionnant. Sur les 40 bulletins, 26 le plaçaient en première position. Une victoire digne de Bonaparte. Deux bulletins le plaçaient en dernière position. On ne saura jamais quels sont ses ennemis de Bonaparte, peut-être des amis de Carnot. En passant, il semble que l'Institut n'a jamais protesté contre l'éviction purement politique de Carnot. Mais le processus d'élection n'était pas terminé. La classe des sciences devait ensuite transmettre la liste des trois premiers à l'Assemblée générale de l'Institut, contenant donc des non-scientifiques, et c'est cette Assemblée générale qui votait sur cette liste de trois, avec la même méthode de Borda. Un repas mondain fut organisé le 11 décembre, dans lequel Bonaparte eut l'occasion de briller. On parla poésie, métaphysique, droit, de la paix, de la guerre. Il commenta Jean-Jacques Rousseau, mais il parla aussi de mathématiques avec Lagrange et Laplace, deux des plus éminents mathématiciens de son époque. Il évoqua la solution d'un problème étonnant. On vous donne un cercle, vous êtes muni d'un compas, mais vous ne disposez pas d'une règle. Pouvez-vous trouver le centre du cercle ? Bonaparte expliqua la solution à Laplace et Lagrange, qui ne la connaissaient pas. On dit que Laplace s'exclama « Général, nous nous attendions à tout recevoir de vous, excepté des leçons de mathématiques. » Bref, ce soir-là, notre Bonaparte a su se mettre en valeur. À propos de cette histoire de cercle, je ne sais pas si Bonaparte a mentionné que cette solution n'était pas la sienne, mais celle d'un mathématicien qu'il avait rencontré peu avant à Milan, Mascheroni, qui a écrit « Geometria del compasso », dont la préface commence d'ailleurs par une dédicace à Bonaparte, « Bonaparte l'Italico », dont une traduction française commence par « Je t'ai vu avec ta main invaincue, qui partage les royaumes et dicte la paix à Vienne ». Diviser avec moi la circonférence du compas, fidèle avec d'autres circonférences. Je t'ai vu assaillir les rochers abrupts, des problèmes difficiles, avec la valeur du maître accompli en géométrie, etc., etc. Waouh, quel éloge ! Le vote final eut donc lieu le 25 décembre et ce fut un triomphe. Bonaparte reçut 305 points pour 104 votants. Si tout le monde l'avait placé en premier, donc avec 3 points, cela aurait donné 3 fois 104, soit 312. Donc, moins de 7 votants ne l'ont pas mis en premier. Mais quel succès ! Une anecdote. Je me suis amusé à vérifier les additions. Après tout, je suis mathématicien. J'ai trouvé une erreur de calcul. Non. Rassurez-vous, cela ne met pas en cause le résultat final, et Bonaparte était bien le vainqueur. Ça aurait été intéressant si cette erreur avait renversé le classement. Voilà donc le général Bonaparte, membre de l'Institut. La suite, eh bien, notre général est très fier. Lors de la campagne d'Égypte, il signait « Le membre de l'Institut, général en chef ». Par la suite, on comprend que ses nombreuses activités ne lui ont pas permis d'être assidu aux séances de l'Académie des sciences. Je devrais dire de la classe des sciences, puisque l'Académie des sciences ne fut recréée qu'à la Restauration. Mais cela ne signifie pas qu'il a été inutile à l'Académie. Par exemple, il a encouragé la création de prix scientifiques, comme celui autour du développement de l'électricité. Il avait été enthousiasmé par une présentation de la pile de Volta. Il décida immédiatement d'un prix annuel de 3000 francs sur ce sujet. Pendant tout l'Empire, l'Institut a eu un comportement bassement servile vis-à-vis de Napoléon. On érigea par exemple une statue de l'empereur en majesté, qui est encore sous la coupole de l'Institut. En retour, Bonaparte voulait qu'on ne puisse pas confondre l'Institut avec aucune autre société savante ou littéraire. Afin de s'en assurer, il fait introduire dans la loi sur l'instruction publique, en floréal en 10, au titre 9, un article ainsi rédigé. L'Institut national des sciences et des arts sera le seul établissement public qui portera ce dernier nom. Signé Bonaparte. Incroyable, cette loi n'a pas été abrogée, elle est donc encore en vigueur. Pensons aux instituts de beauté qui sont dans l'illégalité. La situation devint plus délicate en 1814. L'Institut déclare son allégeance au roi. Voici ce que son président écrit dès le lendemain de l'abdication de Napoléon. Pénétré des sentiments et des principes qui ont dirigé le Sénat et le gouvernement provisoire dans ces circonstances mémorables, l'Institut arrête qu'il les remerciera solennellement des mesures salutaires qu'ils ont prises pour rendre à la France un monarque appelé par le vœu général et pour donner à la nation une charte fondée sur des institutions fortes et en harmonie avec le progrès des Lumières et l'état de la civilisation européenne. Comme vous le savez, Napoléon ne tardera pas à revenir de son île pour 100 jours. On peut imaginer que de retour à Paris, il n'est pas très satisfait d'apprendre qu'il a été désavoué dès le lendemain de son départ. Le 10 avril 1815, il est fait écrire par Lazare Carnot, encore lui, au président de l'Institut. « Monsieur le Président, l'empereur a reconnu l'inconvénient qu'il y a de laisser vacante dans la section de mécanique de la première classe de l'Institut, la place que Sa Majesté est obligée de laisser inactive de fait. Sa Majesté tient cependant à l'honneur d'avoir dû cette distinction scientifique comme simple particulier au suffrage de ses anciens collègues. Mais aujourd'hui, en sa qualité d'empereur, le titre de protecteur de l'Institut est celui qu'il convient de lui donner dans les listes qui seront imprimées, sans cependant oublier d'y rappeler qu'il a été élu le 5 Nivose en 6. Je vous invite, Monsieur le Président, conformément à l'ordre de Sa Majesté, à faire nommer le plus tôt qu'il vous sera possible à la place réputée vacante dans la section de mécanique, en vous conformant d'ailleurs à ce qui est prescrit par les règlements. Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Paris, le 10 avril 1815, Carnot. Napoléon n'est pas content. Il démissionne de l'Institut, mais il en prend possession en quelque sorte. Il en est le protecteur. Aujourd'hui encore, l'Institut est sous la protection du président de la République. En conclusion, cet épisode n'est pas tout à fait à la gloire de l'Institut. Bonaparte a été élu parce que les membres ont deviné l'homme de pouvoir qu'il deviendrait. L'Institut a largement profité de la protection de l'empereur. C'était peut-être le but initial. On est peut-être un peu loin de la mission initiale lors de sa fondation, recueillir les découvertes et perfectionner les arts et les sciences. Mais après tout, ne boudons pas notre plaisir. Napoléon accordait une place considérable à la science. Voici ce qu'il disait, sans modestie bien sûr. Si je n'étais pas devenu général en chef et l'instrument du sort d'un grand peuple, je me serais jeté dans l'étude des sciences exactes. J'aurais fait mon chemin dans la route des Galilée et des Newton. Et puisque j'ai réussi constamment dans mes grandes entreprises, eh bien, je me serais hautement distingué aussi par des travaux scientifiques. J'aurais laissé le souvenir de belles découvertes. Aucune autre gloire n'aurait pu tenter mon ambition. Dans l'histoire de France, certains de nos rois, empereurs ou présidents ont soutenu les sciences. Mais Napoléon Bonaparte est probablement le seul qui aurait rêvé d'être un scientifique s'il n'avait pas été l'instrument du sort d'un grand peuple. Aujourd'hui, la grande salle des séances de l'Institut est décorée d'un grand nombre de bustes. L'un de ceux qui est mis en valeur, à la droite du pupitre du président, est celui de Bonaparte. Bonaparte, jeune. Vous avez entendu quelques caprices de Pierre Rode, interprété par Yuri Vassiliev. En 1800, Rode est nommé violon solo de la musique particulière du premier consul. Bonaparte aime la musique. Il a rencontré en Italie une cantatrice, dont il a fait sa maîtresse, Giuseppina Grassini, qu'il fait venir à Paris. On dit cependant qu'il ne faisait à la belle cantatrice que des visites brusques et furtives. Ce qui devait arriver arriva, Rode et Grassini devinrent amants. Dans le film d'Abel Gance, Bonaparte se rend chez sa maîtresse, monte un escalier, la Grassini chante, on entend un violon. Le consul entre, la cantatrice est seule, à ce moment une porte d'armoire grince, Pierre Rode est caché dans l'armoire. On força les amants à quitter Paris, ils partirent en Russie. Plus tard, on reverra Grassini à Londres, au cours des fêtes célébrant la défaite de Napoléon, et sa trahison ira jusqu'à devenir la maîtresse de Wellington. Bonaparte n'a pas gagné sur tous les plans.
Petite histoire de science avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.